deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois.
Écrit libre.
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 Voici une émission qui tremble et qui palpite. On y parle de la peur, des peurs plutôt. Il y en a de toutes sortes. Peurs fondées ou non. Peurs avec lesquelles on joue. Peurs avec lesquelles on se joue de nous.
La rumeur de Martine Morard. Dans les années 60, une rumeur partie d'Orléans se répand dans plusieurs coins de France. Elle arrive jusqu'à la petite ville du Maine-et-Loire, où j'habite avec ma famille. Deux magasins de prêt-à-porter féminins en sont la cible. On raconte que leur cabine d'essayage cache une trappe qui avale les malheureuses jeunes clientes qui ont l'imprudence de s'y aventurer. Ces filles sont ensuite droguées et emportées vers des pays lointains où elles seront prostituées. L'expression « traite des blanches » est murmurée de copine à copine dans la cour du collège où je suis scolarisée. « Traite des blanches », quelle expression énigmatique! J'avoue que je dois avoir recours aux explications de camarades plus délurés que moi pour en découvrir l'horrible signification. On les connaît bien, ces deux magasins. Il faut dire que ce sont les seuls qui proposent un choix de vêtements un peu branché. Passer devant lors de nos sorties en ville relève désormais de l'exploit. Et pas question de le faire sans être escorté de deux ou trois copines. Nous en scrutons les devantures, essayons d'apercevoir le fond de la boutique et les fameuses cabines d'essayage. Tremblons pour les rares clientes qui osent pousser la porte. À la maison, personne ne veut croire à cette sombre histoire. Mon père affirme que tout ceci a été inventé par les propriétaires d'autres enseignes moins en vogue, pour nuire à leurs concurrents. Ils espèrent, d'après lui, récupérer les clientes effarouchées. Ce discours rationnel convient très bien à ma sœur aînée qui rêve depuis plusieurs semaines de s'acheter ce joli petit manteau en poil de chameau admiré dans la vitrine de l'une des deux boutiques ostracisées. Mais cependant, pas question pour elle de se lancer seule dans l'aventure. Je suis donc promue garde du corps, fonction qui ne m'enchante pas vraiment. Un jeudi après-midi, nous partons pour le centre-ville. Il nous faut marcher 3 bons kilomètres avant d'atteindre la rue nationale, principale artère commerçante de notre commune. Encore quelques mètres, et nous voici face à la devanture où le manteau convoité habille un mannequin en celluloïde à la perruque blond platine. Ma sœur s'extasie, me demande mon avis. Mais ce qui me monopolise mon attention, c'est l'intérieur du magasin qui me semble bien vide, bien sombre. Inutile d'imaginer détourner ma sœur de l'objet tant désiré. Je me prépare donc intérieurement à affronter un éventuel danger. Et échafaud d'une stratégie au cas où j'aurais à la défendre contre une tentative d'enlèvement. Nous poussons la porte de la boutique. Le son cristallin habituel retentit et fait apparaître une jeune vendeuse, au sourire si avenant qu'il en est suspect. Je jette un regard panoramique, repérant les deux cabines, une autre cliente qui fouille le portant des robes et la patronne du magasin occupée à je ne sais quelle tâche derrière la caisse. Personne d'autre en vue. La vendeuse présente le fameux manteau après s'être renseignée sur la taille voulue. Elle vante le soyeux du tissu, sa couleur mordorée, le confort du vêtement, et propose une cabine pour pouvoir l'essayer. Je m'approche de ma grande sœur pour lui suggérer dans un souffle de faire l'essayage dans le magasin. « Pour essayer un manteau, tu n'as pas besoin de t'enfermer dans une cabine. »«
Non, je ne veux pas que tout le monde me regarde, et s'il ne me va pas. »«
Alors laisse le rideau de la cabine ouvert, je me mets devant. »
Agacée mais peut-être touchée par mon inquiétude ou se disant « on ne sait jamais », ma sœur pénètre dans la cabine et s'abstient d'en tirer le rideau rouge pour s'isoler. Je me poste en sentinelle devant le réduit où je ne détecte aucune trappe au sol. Le manteau tient ses promesses de moelleux et d'élégance. L'affaire est vite conclue. Le manteau payé et soigneusement plié dans un grand sac, nous sortons du magasin soulagés et ravis. l'une parce que le manteau tant désiré est enfin en sa possession, et l'autre parce qu'elle a le sentiment d'avoir affronté avec ruse et courage une situation potentiellement périlleuse. Le lendemain, au collège, le récit de mon aventure ne recueille pas l'enthousiasme espéré. L'attention des élèves est aujourd'hui complètement absorbée par un événement tout aussi extraordinaire, l'arrivée du nouveau et jeune professeur de sciences naturelles, seul homme dans cet univers uniquement peuplé de femmes et d'adolescentes. Il est le charme incarné et ses cours sont bien sûr passionnants. Il paraît que lui et la professeure d'allemand sont amoureux. On les a vus arriver au collège dans la même voiture. Texte lu par Muriel B.
Peur de l'avenir, peur de l'inconnu, peur de la solitude, peur mêlée à la tristesse. L'angoisse fabrique ses fantômes.
Cléon Richard. Bonjour Julie.
Bonjour docteur.
Comment vas-tu depuis la dernière fois, il y a un mois?
Ça ne va pas fort, c'est difficile.
Comment ça, difficile?
Eh bien, il y a quelqu'un qui frappe à la porte de mon studio. Et quand j'ouvre la porte, il n'y a personne.
Tu es lente à réagir, à te déplacer. Le visiteur croit peut-être que tu es absente. Quand tu l'ouvres, il est déjà parti.
Non, ce n'est pas possible.
Pourquoi?
Parce que ça arrive souvent.
C'est-à-dire?
Plusieurs fois par jour.
Aïe. Tu as envie que l'on te rende visite?
Ça dépend, pas toujours, pas n'importe qui. Mais j'aimerais bien que ma mère vienne me voir. Elle m'avait promis de le faire dans la lettre.
La lettre d'il y a 10 ans?
Oui, c'est la seule qui me reste.
Tu passes ton temps à l'attendre, Julie. Tu uses ta vie ainsi. Ce n'est pas bon pour toi. On en a déjà parlé. Il faut que tu cherches ailleurs ce qui te manque de sa part. Elle n'a pas de place pour toi dans sa vie. Elle t'a donné la vie, c'est l'essentiel. On peut avoir plusieurs mères. Il faut en faire ton deuil. Retourne voir ta famille d'accueil. Tiens, ça frappe à la porte. Entrez.
Julie, agacée, se tourne vers la porte pour voir qui le docteur vient inviter à entrer, les dérangeant dans son entretien mensuel. La porte reste fermée. Étonnée, Julie s'adresse au docteur. Qu'est-ce qui se passe, docteur ? Qui invitez-vous à entrer? Je n'entends pas frapper à la porte.
Oui, c'est ma femme.
Votre femme? Je croyais qu'elle était morte.
Oui, elle est morte dans un accident de voiture, fauchée si jeune. Et c'est moi qui conduisais.
Mais docteur, l'accident n'était pas de votre faute. Vous n'étiez pas dans votre tort.
En effet, Julie, mais Rebecca ne veut rien savoir. Elle veut revenir. Elle veut sa part d'existence. Le reste de sa vie lui manque. Elle me la réclame. Elle tambourine très souvent à ma porte. Les jours de pluie, de tempête, sans cesse, elle cogne. Elle n'accepte pas. Elle revient de plus en plus belle. Je deviens de plus en plus frappadingue.
Docteur, moi je crois que vous n'arrivez pas à faire le deuil de votre femme parce que vous l'aimez toujours et que vous ne pouvez pas vous passer d'elle. Elle vous hante. Vous la préférez fantôme plutôt que refroidie sous les roses au cimetière. Il faut faire votre travail de deuil, docteur.
Ça me gonfle, le travail de deuil, Julie. C'est insupportable, tous ces bien-pensants qui ont toujours les solutions pour les autres. Les solutions théoriques pour des situations impossibles à vivre.
Je ne vous le fais pas dire, docteur. C'est bien ce que je pense, moi aussi, dit Julie, regardant dans les yeux son toquet de docteur. Dites-moi, est-ce que vous vous prescrivez du tertian anti-hallucinatoire?
Non, je n'y ai pas pensé.
Docteur, il faut faire attention à vous. C'est vous qui savez, pas moi. Moi, je suis une pauvre bougresse couchée sous un édredon de chagrin qui me réveille toutes les nuits. Je n'arrive pas à pleurer. Ça m'aiderait peut-être, mais c'est bloqué. Et ça toque à la porte tous les jours.
Julie, vous devriez faire plus de porte-à-porte avec vos livraisons de journaux. Ça vous changerait de chez vous et vous pourriez faire un brin de conversation avec les gens sur le seuil.
Oui, quand je n'en peux plus de ces toc-toc, je lui claque la porte au nez, surtout l'hiver. L'été, je la laisse ouverte, à tous les vents. Je vais sur la terrasse, c'est moins pire.
Et le tertian, Julie, ça vous aide?
Oui, ça m'aide à la débarquer, à me passer d'elle. De toute façon, je ne dois rien attendre d'elle. Pas plus aimable qu'une porte de prison.
Je vous en prescris alors, Julie. Entrez.
Julie, agacée, se retourne vers la porte en se disant que le docteur exagère. Les entretiens sont de plus en plus courts et aujourd'hui, il ne lui a même pas dit au revoir avant d'accueillir le patient suivant. Elle se lève et ne voyant personne entrer, elle se permet de lui dire « Docteur, vous devriez peut-être essayer le tertian, vous aussi. »
« Non, Julie. » Le chagrin, c'est incurable. Il en reste toujours une couche sous l'édredon. Il faut s'habituer, on ne peut pas le faire taire complètement. Alors, il faut lui faire un peu de place pour qu'il ne vous dérange pas n'importe quand, n'importe comment. Le chagrin, ça se respecte. Sinon, ça finit par vous faire la peau.
Je vous comprends, docteur. On ne peut pas lui claquer le beignet au chagrin.
C'est ainsi, Julie. Je vous revois le mois prochain.
Au revoir, docteur. En ouvrant la porte pour quitter la pièce, Julie entend.
Entrez.
Dans le couloir, elle ne croise personne. Texte lu par Michel Frappard et Cécile Nivet.
C'est pas tant la peur de la guerre avec son grand micmac. C'est pas tant la peur de l'amour avec ses grands cornacs. C'est pas tant la peur du suaire avec son grand cloaque. C'est surtout la peur ordinaire. C'est surtout la peur de la peur. C'est surtout la peur ordinaire. C'est surtout la peur de la peur. C'est surtout la peur ordinaire. C'est surtout la peur de la peur. Avec son bric à brac.
FM 91.2, les ateliers des Valounais.
Peur que l'on fuit et que l'on cherche, empreinte des peurs enfantines. L'image de la peur a parfois d'envoûtantes et infernales séductions.
Au-dessus des foules, et que la lumière soit.
Le parking. Lorsque nous avions emménagé, la résidence dans laquelle vivent mes parents depuis 40 ans était flambante neuve et je me souviens de la fierté que j'éprouvais alors. Ses deux halls et sa cage d'escalier entièrement recouverts de marbre, les grands miroirs biseautés dans lesquels nous pouvions nous admirer face aux boîtes aux lettres plaquées à cajou toutes bien alignées, son ascenseur moqueté couvrant les 8 étages et signe suprême de modernité, l'interphone. La résidence de Standing proposait côté sud une vue sur son parc arboré et côté nord, un magnifique et vaste parking privatif bitumé. Pour mes 10 ans, mes parents m'avaient mise au piano et chaque lundi soir, je devais endurer un cours de solfège. Mon père et moi venions justement de monter en voiture pour nous y rendre quand une jeune femme s'éjecta en courant de notre cage d'escalier. Visage hagard, elle nous repéra sur le parking et frappa violemment à la vitre côté conducteur. Sans attendre la réponse de mon père qui tardait à venir, elle ouvrit la portière, d'un bond s'installa sur le siège qu'occupait habituellement ma mère et nous hurla de démarrer. Bien que mon père ait sûrement fait au plus vite, je me souviens l'avoir maudit pour sa lenteur à mettre le contact. Une peur quasi liquide se répandait à toute allure dans mes veines et je fixais la porte en verre de l'immeuble, tétanisée à l'idée de voir surgir un homme. J'avais 10 ans, n'avais jamais rien vécu de pareil, mais je sus instinctivement que la menace viendrait d'un homme. Immédiatement à cette peur s'en superposa une autre. Moi et la femme ne pourrons rien faire. Seul mon père prendrait les coups. « Pars, papa !» hurlai-je en silence. Alors qu'enfin il démarre et enclenche la marche arrière, l'homme déboule, court à côté de notre voiture, frappe l'étrangère à travers la vitre, prononce des mots interdits, des mots crus, des mots sexuels. Une fois hors de sa portée, nous roulons en silence. La femme pleure et arrange son chemisier presque entièrement ouvert. Elle n'a pas de manteau et nous sommes en hiver. J'ai froid pour elle. M'inquiète aussi de son vêtement forcément abandonné chez l'homme. Elle fouille dans son sac sans trouver ce qu'elle cherche. Mon père sort un mouchoir en tissu de la poche de son pantalon et sans un mot le lui tend. Ce geste-là de tirer son mouchoir, je le connais depuis ma naissance. Mon père en a toujours deux dans ses poches. La panique commence à refluer. Mon père a ses mouchoirs, la voiture va bon train, la femme a oublié son manteau, mais heureusement, elle a eu la présence d'esprit de prendre son sac. Je m'accroche à ces détails. C'est en acceptant le mouchoir que l'étrangère s'adresse à nous pour la première fois. D'une incroyable voix rauque, elle remercie mon père, s'excuse de son intrusion dans la voiture, puis retourne au silence. Le peu qu'elle nous a donné à entendre m'a bouleversée. Même sous le choc, sa voix est envoûtante. Mon père, en homme poli à l'extrême, ne questionne ni ne commente les raisons qui l'ont fait surgir dans notre habitacle. Il se contente de conduire et machinalement prend le chemin de l'école de musique. À l'approche de notre destination, il ose une question. « Où souhaitez-vous que je vous dépose ?»« Au commissariat, s'il vous plaît. » À ce mot, j'ai envie de vomir. La peur, justement en train de plier, revient avec fracas. Qui dit police, dit problème, dit violence, dit représailles. Je fixe celle par qui le malheur arrive et ne la lâcherai plus du regard à mesure que je la découvre. Elle est plus jeune que ma mère, ses cheveux sont noirs et un peu frisés, elle les porte en carré court autour d'un visage d'une féminité jamais vue, dont la beauté est si grande qu'elle ne peut être altérée par les fragments de maquillage qui ont coulé sous ses yeux. Du haut de mes 10 ans, je n'ai jusqu'alors rencontré de femme aussi achevée. Si belle que je me souviens de mon malaise à l'idée de lui faire subir notre présence, nous que je découvrais alors si communs. Altière, elle me paraissait d'une fragilité fascinante, sans aucune ressemblance avec les femmes de ma famille. Je n'avais jamais connu de telles aventurières. Une de celles qui, malgré le souffre, me révélait l'exact opposé de ma mère, de ses kilos, de notre monde embué dans les vapeurs de cuisine, de la messe du dimanche matin et des déjeuners familiaux qui s'en suivaient. Dans son sillage, une modernité inconnue et terrifiante s'était engouffrée. Et durant les longs mois qui suivirent cet épisode, descendre au parking vous foutrait la trouille. 7 ans plus tard, mon premier grand amour me fera la démonstration de sa passion en me faisant dévaler nos 6 étages sous la menace d'un couteau. J'ai hurlé toute la descente et aucun voisin n'est sorti. Sur le parking, dont le bitume commençait déjà à lâcher, au moment où Antoine me forçait à entrer dans sa méharie, collector comme il disait, par miracle, mon père garait sa voiture. De sa voix polie et autoritaire, il lui a fait lâcher son couteau, nous a fait sortir de la voiture, conduit à l'ascenseur. Dans la cuisine, c'est lui qui a prononcé sa sentence à Antoine, interdiction de me revoir. Le lendemain, il m'emmenait à la police déposer une main courante. Et force est de constater qu'aujourd'hui encore, je regarde avec méfiance le parking de mes parents.
Texte d'Emmanuel, lu par elle-même.
N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont...
Jeu de pouvoir, parler. Désespoir, fabrique de violence, même plus peur.
Le gang des mobilettes. Texte écrit par Marie-Hélène Grimaud. Greg dans la cité est le chef de bande. Depuis toujours, du haut de son 1m50, il observe l'immeuble B, de la cave au 9e étage, avec l'idée d'envergure d'en faire son domaine. C'est un véritable concierge, curieux de tout, un peu despote pour imposer sa loi. Il a une tchatche, un bagou. En gros, il embobine son monde avec pertinence. Sa gouaille, talentueuse, un étendard, un fer de lance pour assurer son prestige. Sa première passion, la mécanique sur les deux roues, mobylette et scooter. Son équipe a le devoir de l'alimenter en pièces détachées. Des menus larcins sont fomentés avec méthode. Une hiérarchie s'organise presque à l'instinct. Chacun dévoile en quoi il est doué. Ils gagnent tous en popularité. Plein de bonnes intentions, Greg donne aux plus démunis la chance de posséder une mob. Ainsi, tous ont le vent en poupe, ce vent de la liberté. Dans les squares, ils pétaradent. Des rodéos s'engagent pour émerveiller les jeunes. Pourquoi ne vont-ils pas hors les murs dans les campagnes? C'est quand même autre chose que les terrains vagues. Ceci reste un mystère propre à leur identité. Il leur est sommé de rester sur cette terre soi-disant d'asile. Alors qu'elle représente à quelques détails phonétiques près une terre d'exil. La bascule s'est faite en l'espace de 2 décennies. Là où 2 générations se heurtent. Greg s'affranchit de l'obligation d'aller à l'école. C'est un manuel. Le collège n'est point dans ses cordes. Lui est un pro pour réparer l'avalanche d'avaries que comptent les HLM. Sans le regard des autres, il bricole tant et plus. Les fuites s'étanchent. Les serrures se graissent, les éviers et les vides ordures se débouchent, l'électricité coupée réapparaît. Greg est une lumière dans le fourbi des armoires électriques. Dans l'intimité de l'appart, sa mère le considère comme le chef de famille. Un bon petit gars, le réparateur du foyer. Je suis envoyé dans ce quartier comme éducateur, un grand frère, un intrus pour ainsi dire, et plus direct, un traître, un Judas. À ce moment-là, Greg n'est pas encore à son apogée, tout juste un meneur à raisonner. Mais le temps passe avec une sournoise évolution. En quelques années, la bande des mobilettes a atteint de plus hautes sphères. Fini les petites mobilettes. Place au grand bolide. Le trafic de drogue. La bande s'improvise gardien, guetteur, dealer, et le parrain est bien notre Greg. Son ambition maladive prend de l'embonpoint. Il commence à me terroriser. Il n'a plus le contrôle de ses acolytes. Mes relations avec Greg s'enveniment. Je suis dans le camp des donneurs de leçons. Et lui entraîne sa bande dans la détestation des gens comme moi. ça ne se passe pas mieux avec les anciens du quartier. Ils brûlent leurs voitures sous leurs fenêtres. Ce bien de capitaliste, leur orgueil. Cette façon de détruire nargue l'ascension sociale réclamée par des pères au chômage. Tout le monde en rage. J'ai été voyou autrefois, et je connais la complexité de ces rapports entre générations. Ce Greg est un double de moi. Mais la situation change. Le poison est plus virulent. Les jeunes désabusés trempent dans la violence. Avec Greg, l'indécrottable, plus question de diplomatie. Tout est sale. Les infos parlent d'eux comme des détritus, de la racaille. Le dysfonctionnement est là et enraye la machine du bon vouloir. Greg ne m'écoute plus. Fin de l'expérience diplomatique. On se braque, Greg et moi. Dans cette flambée de violence, il n'y a pas de traité possible. Un jour, acculé à cette solution, j'ai fait intervenir la police. Cette issue n'en est pas une, je le sais aussitôt. Le quartier est bouclé. Un ghetto de miséreux révolutionnaires pris au piège et visés par la République. Les belligérants d'un bord comme de l'autre sont lourdement armés, des armes fatales. Depuis quelques années, Greg a embrigadé ses trois jeunes frères dans son entreprise. Sauf le petit dernier, son préféré. Celui-là, il l'a protégé. Mais ce jour-là, peur de rien. Dans un délire funeste, une propagande à la haine, il adresse à tous ce commandement. C'est eux ou nous. On y va et mort aux flics. Entre deux voitures s'écroule son jeune frère, abattu d'une balle perdue. Ce texte a été lu par Michel Lannes.
L'histoire allait vers la fable, la fille était dans le lit, l'argent était sur la table, le monde restait poli. Le feu mangea six étables, 117 veaux y compris. Le foin demeurait broutable, le monde restait poli. Or, quand la ville eut péri, la peste rongea le sable, survivaient quatre notables, le monde restait poli. L'avenir toujours joli brillait sur la terre arable, et sous d'un rêve intuable, le monde restait poli. Les vins sont encore buvables, tout désespoir s'embellit d'un sourire inimitable. Le monde restait poli.
L'émission a été réalisée par Sylvie Bauget. Réalisation technique, Hélène. Voix, Marie-Jeanne. Retrouvez les ateliers d'Eva Luna le mercredi 26 mai.